Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le magazine culturel de Radio Rancel, par ici les sorties. Aujourd'hui, deux sujets, deux sorties à ne pas manquer. Tout d'abord, le Pinocchio de la compagnie du Théâtre en pièces. Du 13 au 21 décembre, le TEP donnera une lecture théâtralisée de son Pinocchio au off de Chartres. Nous sommes allés à la rencontre de la petite troupe du TEP que nous avons surprise en pleine répétition.
Hey, comment est-ce que ça va depuis l'autre fois ?
Bah, ça va pas mal, ouais, merci. Ça va même bien maintenant.
Ah bah on s'est dit en te voyant, tiens, il a l'air d'aller drôlement bien lui maintenant. Et on s'est dit, tiens, pourquoi on n'irait pas lui dire après tout ?
À qui ?
Bah à toi. On s'est dit, on va aller lui dire qu'on est vraiment heureux de voir qu'il a l'air heureux lui. C'est tellement rare de voir des gens qui sont heureux.
Bah c'est certain qu'avec ce qui m'arrive, ça serait pas normal d'aller mal même, hein. Mais je sais pas si c'est bien que j'en parle en fait.
Oh, par rapport à certaines choses, vaut mieux garder de la discrétion. T'as entièrement raison.
Surtout sur les sujets qui touchent l'argent. Ça peut être dangereux même de trop en parler comme ça, sans se méfier. Moi, je me méfie.
L'argent ?
C'est ça que tu dis ?
Ouais, par rapport à l'argent, il faut même être très prudent et ne pas parler comme ça, sans réfléchir avec n'importe qui. Moi, je veux être très très prudent avec l'argent. Par exemple, c'est pas parce que j'ai de l'argent sur moi que je dois en parler, comme si ça concernait l'univers dans sa globalité.
Oh, mais tu as bien raison.
Faut pas croire, hein. Mais je réfléchis quand même, moi, sous mes airs, hein. Bon, bah moi, je dois rentrer.
Oui, oui, bien sûr.
En plus, j'ai pas 2 francs 50, hein. J'ai un bon paquet. J'ai 5 000. Alors, je vous laisse imaginer la tête de mon père quand je vais rentrer à la maison.
Ah bah, on n'osait pas te demander combien tu avais sur toi. Tu vois, on était un peu timide, un peu réservé.
Non, non, mais moi, je peux le dire, hein. C'est pas honteux d'avoir 5 000 sur soi. Hein.
Non, t'as raison.
Et je sais pas ce que t'en penses, mais j'aurais bien eu envie qu'on lui parle de ce que tu sais.
Laisse-le! Il doit rentrer! On va pas le retenir plus longtemps!
Bon, bah d'accord. Allez, on te dit salut alors, hein? Rentre bien!
De quoi vous voudriez me parler?
Oh non, c'est seulement qu'on connaît, depuis pas très longtemps d'ailleurs, hein, mais une sorte d'affaire. Oui, une sorte de combine. Non, qui n'est pas une combine d'ailleurs, mais un moyen très simple et très rapide, hein, pour doubler et même tripler l'argent qu'on possède au départ. Oh, c'est une opération vraiment facile, et qui n'est pas très connue pour le moment, et qu'on veut pas trop faire connaître en plus, hein, parce que...
Mais n'embête pas avec cette histoire, il a déjà ses 5 000. Si ça se trouve, ça lui suffit. Il n'a pas besoin de plus, ça l'intéresse pas, notre histoire.
Non mais, si, ça peut m'intéresser, je crois. Je suis juste un peu pressée, c'est tout.
Bon, t'explique vite, alors. Il y a un endroit, pas très loin d'ici. Et on pourrait même t'emmener si tu veux. C'est vraiment très simple, tu vas voir. Un endroit un peu normal et ordinaire à première vue, hein. Un terrain avec de la terre et de l'herbe, où il suffit, tiens, et c'est ça qui est vraiment très intéressant et quasiment extraordinaire. Un endroit où il suffit de déposer son argent là, dans le sol. Oui, de l'enterrer, quoi, hein. Et d'attendre une journée complète pour voir pousser ensuite une sorte d'arbre. Oui, un arbre de cette taille-là, à peu près, hein. Enfin, un bel arbre, quoi, hein. Mais un arbre sur lequel il n'y a non pas des fruits et des feuilles qui poussent, mais des billets. Oui, des vrais billets de banque. Des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de billets de banque.
Et c'est assez beau à voir en plus. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'étais vraiment fasciné par la beauté du phénomène.
Oh, c'est incroyable votre truc.
Ah oui, vraiment. Hey, tout le monde d'ailleurs n'est pas au courant, c'est mieux comme ça, hein. Nous, on t'en parle parce qu'on se dit que ça pourrait être intéressant pour toi, dans ta situation.
Mais ça veut dire qu'avec tes 5 000... tu peux faire en 24 heures 500, 800, 900 000, voire plus, suivant la grosseur de l'arbre qui pousse.
Extraordinaire. C'est où cet endroit?
Non, mais c'est pas très loin.
Et ça s'appelle comment?
Le Champ des Miracles. Et c'est situé au pays des imbéciles.
Oh, c'est vraiment intéressant.
Non, mais c'est pour ça qu'on avait envie de t'en parler, tu vois. Alors, nous, à la base, on n'est pas très concernés par tout ça. Mais non, nous, ça nous intéresse pas trop, l'argent. Mais pour toi, c'est sans doute une très très bonne chose, on s'est dit.
Oh bah ouais, hein, c'est même une plus qu'une très très bonne chose, c'est certain, ça vaut vraiment le coup, hein. Bah, et si vous êtes prêts à m'y emmener, moi je vous suis tout de suite, hein, je vous le dis.
Bah nous, on est prêts.
Bah on y va. Là, je pense qu'il n'y a pas à réfléchir plus longtemps. Quand je vais rentrer chez moi, là, mon père, oh, ça va le retourner.
Oh là là, on sent que ce pauvre Pinocchio, parce que c'est Pinocchio qu'il s'agit, va se lancer dans une aventure qui a tourné à ses dépens, n'est-ce pas, Emmanuel Rey?
Oui, mais en fait, je pense que cette histoire qui m'intéresse, c'est tout simplement affronter la vie telle qu'elle est Et dans l'histoire telle qu'on l'a composée aujourd'hui, on voit bien qu'il est accompagné dans cette histoire de l'image de son père. Et son père qui est derrière lui tout le temps. Et en fait, on pourrait s'amuser à croire que tous les personnages qui l'entourent, finalement, c'est son père qui le joue. Comme ça, pour que, en fait, il puisse affronter vraiment la vie et comprendre que bah, c'est pas tout rose, et bien que finalement il y a des embûches à chaque coin de rue, mais que c'est grâce à ces embûches qu'on peut rebondir.
Comme dans les contes de sagesse, finalement, où le héros traverse des épreuves avant de se trouver lui-même.
Oui, complètement. Mais ce qui est important de dire, c'est que c'est jubilatoire. C'est un jeu. Et finalement, c'est ça que, à travers ce Pinocchio, j'ai envie de montrer que on se doit de sourire vraiment à la vie et même s'il y a des difficultés, on est vivant. Et c'est cette transformation du Pinocchio en bois avec tout son corps, avec ce qu'il est de complètement vivant, à la fois dans la tête, à la fois dans ce qu'il compose. Voilà.
Parlons du texte, peut-être. C'est pas le texte originel, c'est-à-dire le texte originel, je crois, c'est du 19e siècle. Là, c'est autre chose.
Oui, oui, là, c'est l'adaptation de Joël Pommerat. Effectivement, il a retravaillé son conte. C'est sa particularité au metteur en scène Joël Pommerat. Il a travaillé sur Cendrillon, sur d'autres contes. Il aime ce travail sur le conte. Et nous, depuis qu'on a travaillé aussi sur Peau d'âne, et je dois dire que ce que j'aime quand j'évoque parfois la notion de spectacle jeune public, c'est justement être sur le conte et sur cette écriture qui est non pas simplement de raconter une histoire, mais comment amener l'enfant et comment aussi l'adulte qui reste enfant peut vraiment revoir la notion même d'une histoire, qu'est-ce que ça peut lui apporter, qu'est-ce que ça peut lui faire éclore chez lui.
Il y a un côté vraiment jubilatoire, moi je jubilais en vous écoutant. Je voulais savoir si les comédiens, vous étiez vous le chat Emmanuel, il y avait donc, alors le chat parce que évidemment je fais référence au Pinocchio de Walt Disney que tout le monde a vu. Fabien, vous étiez vous le renard, est-ce que c'est jubilatoire de jouer cette espèce de personnage de filou que vous arrivez à rendre sympathique?
Oui, enfin, dans Pinocchio, après, là, enfin, il y a multiples personnages. Effectivement, il y a ce personnage qui est très jouissif à jouer, mais les autres aussi. Enfin, c'est effectivement, vu que c'est un conte, il y a aussi la possibilité de, en tant que comédien, de se faire énormément plaisir.
Et vous, Mélanie, donc c'est vous, Pinocchio?
Oui. Oui, tout à fait. Ouais, j'ai du plaisir à jouer un petit garçon, à essayer de rechercher le petit mec qui est chez moi, qui était là quand j'étais petite, sans problème. Et je suis contente de retrouver ce petit mec qui me compose complètement, quoi.
Ouais, c'est vraiment un petit mec, hein. Quand je vous écoute, c'est pas un petit garçon, c'est pas un garçonnet, c'est un petit mec qui est plein de santé, de dynamisme et qui rêve aussi à voix haute, hein.
Ah oui, c'est vraiment ça. C'est effectivement, il y a le côté On est sur la limite du pré-ado, enfin pas encore, pas vraiment, mais un petit gars qui a envie de traverser le monde, qui est très fort, qui va rencontrer tout le monde et qui va aller de l'avant. Il a ce côté-là, même s'il va s'en prendre un petit peu, puis ça va le calmer tranquillement. On est au début de la pièce là.
Alors, c'est une lecture théâtralisée. C'est quoi le principe de la lecture théâtralisée?
Alors c'est tout simplement que moi j'ai voulu, à travers ce spectacle, de rester à la lecture, tout en sachant qu'on incarne les personnages, qu'on va loin dans le jeu quand même, mais parce qu'on ouvre le livre. Et le livre, c'est les mots qu'on ouvre et qu'on découvre. Et donc, comment les faire partager, comment faire partager l'envie de la lecture, eh bien, c'est aussi de rester au stade de la lecture. Et ça, je dois dire que je l'ai voulu. Alors même si, effectivement, on approche du jeu incarné aussi, et peut-être on se libère petit à petit de la lecture. Mais on reste quand même avec les mots du texte, avec ce livre qu'on lit devant le public.
Alors là, il y a une mise en scène, bien évidemment. Et là, je suis arrivé, vous étiez en train de réfléchir tous à la mise en scène. Donc, pour l'instant, c'est encore à l'étude.
Oui, et c'est pour ça qu'on a repris 15 jours là, de répétition, parce que j'ai souhaité adapter ce spectacle en salle. On l'a déjà parcouru à travers villages, comme ça, avec le camion, en haut du camion, sur une scène, comme ça, sur le camion. Et
c'était à l'époque du Covid, ça, hein ?
Oui, c'était à l'époque du Covid. Enfin, on est toujours peut-être dans le Covid, mais bon, bref, on essaie de s'en dégager. Et là, effectivement, en salle, de réfléchir comment ce que j'ai pu créer à l'extérieur peut s'adapter vraiment scénographiquement, être méticuleux sur chaque objet qu'on va garder. Et là, pour l'instant, on teste l'ensemble des objets. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir aussi travailler sur à des moments où, notamment Fabien aura appris le texte, et donc on se dégage de la lecture. Et à d'autres moments, comment un tel personnage va incarner et cependant, c'est une autre personne qui va dire le texte à sa place. Il y a des moments comme ça qui vont se chercher. Et peut-être, moi, il y avait notamment tout un travail sur la fée. Et là, je commence à trouver comment on va le faire. Mais ça, je ne le dis pas. Il faut venir voir le spectacle.
Donc, il y aura une fée. C'est la fée bleue, c'est ça, hein ?
Oui, c'est là où la fée, tout simplement. Mais qui représente... Je voudrais revenir là-dessus parce que c'est important de le dire. C'est-à-dire que la fée, c'est la mère, finalement. Et le père, comment il engendre la vie de ce gosse, quoi. Et comment il lui propose les jeux. En fait, c'est pas simplement le père qu'on abandonne, c'est le père qui suit de loin son fils et qui, tout d'un coup, au lieu de le suivre de loin, eh ben, revêt le costume de l'escroc, revêt le costume du juge et ainsi de suite. Et ça, j'aime bien. J'aime bien me dire qu'on joue avec cela, que le père est moteur de l'éducation, entre guillemets, de son fils.
Donc finalement, il n'est pas livré à lui-même, puisque à chaque tournant, son père l'attend.
Exactement. Et en plus, c'est non seulement le père l'attend, mais quelque part, peut-être que le fils l'attend aussi, attend son père dans ces personnages-là et se confronte. Je me souviens quand j'étais môme, des engueulades que j'avais avec mon père et ça me faisait plaisir. Et je vois aussi mes enfants aussi. On incarne des personnages à ce moment-là et on se compose la vie. Et c'est ça qui est intéressant de voir. C'est-à-dire que non, il n'y a pas de morale. Il y a simplement un jeu là entre un père et un fils ou des fois de temps en temps la mère intervient et qui dit mais l'enfant dit qu'il se libère de sa mère, mais c'est qui celle-là qui vient foutre la zone dans le jeu avec son père et là en ce moment j'ai avec mon grand-fils il y a un peu ça en ce moment il se libère de sa maman un peu de temps en temps, il coupe le cordon et c'est bien.
Ce off là, il vous plaît? C'est une salle intéressante pour travailler.
C'est un bel outil de travail. Alors, il y a plein de choses à dire, à améliorer encore, etc. Parce qu'on est comme dans un bateau là tout neuf. Et il faut absolument qu'il y ait des petits ajustements. Mais c'est intéressant de pouvoir se confronter à tout et à se dire on va faire de ce off quelque chose de fantastique. Et c'est notamment par le fait d'accueillir un certain nombre de compagnies et que l'âme artistique fasse éclore ce navire.
Courez voir les comédiens de la compagnie Chartreine du théâtre en pièces du 13 au 21 décembre prochain au off de Chartres. Pinocchio, réservation au 02 37 23 42 53.
Là, le soleil qui se lève en plein milieu de la nuit pour aller boire un verre de lait. Le petit môme regarde son papa qui grandit. On reconnaît plus ce qu'on connaissait. La lumière du jour fait que tout s'obscurcit. L'espoir s'accroche au piquet de craie. Une photo de Saturne donne le mal du pays. Le Guéluron, Gottlieb, Sénès. Dans l'équipe de France de foot, vivement qu'ils reviennent. Avec eux, ce serait parfait. Raymond Coppin, Mimoun, puis Anthony Fontaine. Ça me plaît plus comme ça me plaisait. Là, la vie qui passe le plus clair de son temps, à compter les minutes qui filent. Une balle perdue pleure, à maman, la solitude est difficile. Voilà neige et pluie qui remontent vers le ciel, voilà les fusées qui tombent. L'âge d'or nous arrive et devient si réel qu'elle pousse l'utopie dans la tombe. Quand il manque de tout, un être est dépeuplé. Allons enfants, ouvre la partie vers les sillons sanglants que vos pères ont creusés. Pas triste, pas triste patrie. Voilà du pain complet, même plus un strapontin. Le blé attaque son chant d'adieu. Si tous les gars du monde savaient taper les mains, ils se taperaient plus avec entre eux. Là, l'orage qui se prépare à partir en week-end, faut bien profiter des beaux jours. Vers le Mont Saint-Michel où un cheval se promène, où la marée galope toujours. Voilà que les soldats du monde font de la méditation, les cimetières manquent de clientèle. Tita et Eddie Mitchell et à Souchon, que les feuilles de 18 juin se ramassent à la pelle. De là passe-moi les ponts, les v'là du slow, les v'là tous les deux dans un bateau. Je fais savoir à ma banque que pour mon découvert, je viendrai les voir dimanche. La même au monde qui chante, mon petit poussin qui crie, et les mauvaises nouvelles du soir. Et nous voilà tous ensemble, et on pleure et on rit, et le soleil se lève de plus en plus tard. La mamoumoune qui chante, mon petit poussin qui crie, et les mauvaises nouvelles du soir. Et nous voilà tous ensemble, et on pleure et on rit, et le soleil se lève de plus en plus tard.
V'là le soleil qui se lève, Michel Jonas. Memoria, voyage au cœur des collections, c'est l'intitulé de l'exposition École visible au Musée des Beaux-Arts de Chartres jusqu'au 26 février. Ce programme Exposition École est un projet pédagogique original qui offre à des étudiants de Master 2 de l'École du Louvre à Paris de concevoir et de mettre en œuvre un accrochage temporaire à partir des collections d'un musée donné. Ce programme Exposition École nous est présenté par Madame Barbillon, directrice de l'École du Louvre, une très vieille institution.
L'École du Louvre est une vieille dame, elle a 140 ans cette année. Elle a été fondée en 1882 sous l'éphémère gouvernement Gambetta, sous la Troisième République, pour former les professionnels de musée. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de conservateurs vraiment formés, vraiment professionnels. C'était surtout des amateurs éclairés qui s'occupaient des musées, des collections publiques. Et l'École du Louvre était là justement pour donner une vraie compétence professionnelle à ces personnes qui allaient prendre en charge les collections nationales dans les musées de France en général. Alors aujourd'hui, l'École du Louvre forme à beaucoup plus de métiers que ça. Elle est très ouverte. Nous avons 1800 élèves et puis aussi beaucoup d'auditeurs libres, puisque l'école est également là pour accueillir des publics qui sont des publics simplement cultivés mais non spécialistes, qui ont envie d'apprendre des choses en histoire de l'art, en archéologie, et les élèves de l'École du Louvre peuvent ensuite, à la sortie, en particulier après le master qu'a fait Anne-Claire justement, trouver du travail dans tous les mondes de l'art, que ce soit le patrimoine, les musées, mais aussi le marché de l'art, mais aussi les monuments, justement, les villes d'art et d'histoire. Enfin, il y a toute une palette de métiers auxquels l'École du Louvre prépare.
Alors, évidemment, Anne-Claire, vous voulez faire quoi, vous, plus tard, ensuite ?
Moi, j'aurais aimé être administratrice de bases de données pour les musées. Toutes les bases de données, en fait, qui conservent l'ensemble de la documentation sur les œuvres et qui sont très utiles, en fait, dès qu'on veut faire une exposition.
C'est très spécifique, hein. Vous avez vraiment votre idée bien arrêtée, donc. Ce projet, donc, une fois par an, les élèves de l'école du Louvre choisissent un musée et vont travailler à créer une exposition. Pourquoi avez-vous choisi le musée de Chartres ?
Eh bien oui, depuis quelques années, chaque année, une exposition école est proposée à une dizaine de nos élèves de fin de cursus, c'est-à-dire de master. Et la raison de choisir Chartres, elle est double. D'abord, la qualité de ce musée, sa diversité. C'est un musée qui mériterait d'être encore mieux connu parce qu'il présente non seulement des chefs-d'œuvre, par exemple ce grand relief du sculpteur Auguste Préau, auquel a été consacré au musée d'Orsay une exposition en 1997, mais qui est une œuvre clé pour comprendre le romantisme. C'est une œuvre que le monde entier nous envie, cette tuerie de Préau. Mais aussi, vous le voyez, dans la salle où nous sommes, des collections extra-occidentales, des collections de toute période et de tout lieu de production artistique. Donc le musée de Chartres, c'est un petit musée universel à lui tout seul. Nous sommes donc très heureux que nos élèves aient pu s'y immerger et y préparer la belle exposition que les visiteurs vont découvrir.
Voilà, fier d'être chartrain, merci beaucoup. Est-ce que les élèves ont participé aussi au choix du musée ? Quelle était votre marge de manœuvre ?
On n'a pas choisi le musée, mais néanmoins, on a vraiment travaillé à partir de ces collections parce que c'était une de nos contraintes de ne pas faire de prêt en fait, pour cette exposition et d'utiliser vraiment les objets qui sont dans les collections. Et à travers l'exposition, on propose justement un parcours autour de cette idée de patrimoine et du rôle du musée en fait, dans la conservation de la mémoire collective et individuelle.
Donc pendant un an, il a fallu évidemment connaître de fond en comble ou presque le musée des Beaux-Arts. C'est déjà du boulot, non ?
Oui, on a commencé du coup en octobre par une visite du musée, mais vous l'avez dit, de fond en comble. Et ensuite, on a pu avoir, à travers des exports documentaires de leur base de données, on a pu travailler en fait et analyser plus en profondeur d'où provenaient les collections et de quoi elles étaient composées.
Alors, ensuite, il faut raconter une histoire. Une exposition, ça raconte une histoire, donc... Quel était le parti pris finalement ?
Notre parti pris, ça a été de raconter en fait l'histoire du patrimoine local et l'histoire du musée en même temps, mais aussi d'inscrire ça dans une optique un peu plus large, en prenant l'histoire du musée en fait en tant qu'institution, mais inscrit dans l'histoire des musées globales. Et donc à travers ça, on a voulu montrer que le musée, ça conserve le patrimoine local, mais aussi national. On a des figures locales qui sont présentés comme Marceau, mais on a également donc la tuerie de Préau, qui est un chef-d'œuvre national, voire même international, qu'on présente dans notre exposition, justement pour son caractère universel.
À part donc ces deux œuvres, les visiteurs pourront découvrir quelles pièces ?
On a des pièces d'archéologie, on a des moulages de la bande d'Orgère, qui sont aussi très locales, justement, qui sont des brigands qui ont sévi autour de Chartres. On a énormément d'œuvres différentes et on a des œuvres extra-occidentales, donc on a des masques provenant de Nouvelle-Calédonie, des masques Kanak. On a également donc un chambranle de case Kanak. On a des différents types d'œuvres. On a à la fois des sculptures, des peintures, mais aussi des arts graphiques.
Donc c'est déjà pas mal, ouais. Je suppose, Claire, que vous les avez un peu accompagnés, pilotés. Comment ça s'est fait ?
Pas du tout. Je découvre l'exposition aujourd'hui. C'est un de mes collaborateurs, Ludovic Raffali, qui suit ce groupe d'élèves année après année. Un collaborateur enthousiaste qui a évidemment travaillé étroitement avec le conservateur du musée. C'est très important, cette bonne entente et je dirais même, vous voyez, ce lien très fort qui s'est tissé entre le groupe des élèves de l'école du Louvre, cornaqué par Ludovic Raffali, et puis Grégoire Allais, le conservateur. Et je découvre aujourd'hui leur parti pris de cet abécédaire qui me semble très bien fonctionner, que je trouve très fin, très intelligent, parce qu'il mêle aussi le texte à l'image et il montre comment on peut mieux comprendre donc, ce que l'on voit quand on a affaire, quand on découvre un musée qui est un musée finalement très pluriel, comme je vous le disais, un petit musée universel.
Alors, il faut quand même savoir dire aux auditeurs que ce travail, c'est un travail que vous faites en plus des études. C'est sur la base du volontariat. Hein.
C'est ça. C'est sur la base du volontariat. Et puis, nous sélectionnons des élèves qui sont dans différents parcours de master. Parce que l'École du Louvre propose 6 parcours de master différents. Et nous nous efforçons de choisir des élèves qui viennent finalement de parcours d'études un peu différents pour que ça converge, pour qu'ils apprennent à travailler ensemble. C'est vraiment un travail de groupe. C'est un travail collectif. Et c'est très important parce que souvent, les élèves dans leurs études sont un peu solitaires. Et il faut qu'ils apprennent, surtout au seuil d'entrée dans la vie professionnelle, à quel point le travail en groupe est fondamental.
Vous avez beaucoup appris, ça vous a beaucoup plu, ce moment ?
Oui, oui, on a été vraiment très complémentaires parce que on a appris en fait à dépoussiérer des œuvres dans le cadre du montage grâce aux étudiantes qui étaient en régie des œuvres. On a appris aussi beaucoup, on a approfondi notre pratique de recherche et vraiment on a été très complémentaires l'un et l'autre durant toute la création de cette exposition.
Mémoria, voyage au cœur des collections, une expo école, Musée des Beaux-Arts de Chartres, École du Louvre. C'est donc à découvrir au Musée des Beaux-Arts de Chartres jusqu'au 26 février. Voilà, cette édition de Paris ici, les sorties s'achève. Je vous retrouve dans 4 semaines pour une prochaine édition. D'ici là, restez fidèles à l'écoute des programmes de Radio Rancière, la radio qui, je ne cesse de vous le rappeler, rapproche les hommes.
J'ai suivi l'enfant qui vole au-dessus de la sûre. Pour elle, pas d'école, pas de chaussures. Quand les feuilles tombent, le cheval s'arrête et le nain triste allume le bord de la piste. J'ai suivi l'enfant qui vole, cambre les reins. Debout dans la camisole, le maillot de satin. Quand le matin vient, qu'elle quitte la piste, que le nain triste l'emmène. L'enfant qui glisse au-dessus des visages, rêver de son ventre lisse comme un coquillage. Quand le matin vient, qu'elle quitte la piste, que le nain triste l'emmène.